Quand ça compte avec Éric Auziel.
Ouais, mais c'est là que ça compte avec Éric Auziel. On se demande pas quand, on se dit bien tout de suite. Éric, ça va?
Très bien, mon ami. Très bien.
Jake Evans, toi, tu y donnes? S'il demande plus que 4 millions, on jasera pas de ça pendant 25 minutes, là, mais...
Ben, écoute, je vais te donner mon point de vue. Tu sais, je t'ai dit la semaine passée que... Puis je m'étais trompé, puis je me suis mal exprimé. Là, je te parlais du troisième trio. Jake Evans joue sur le quatrième trio, mais je le vois comme un gars qui pourrait cette année jouer troisième trio. Il aurait pu facilement être entre Anderson et Gallagher. C'est Dvorak qui est là. Il est avec Armia. Moi, je pense qu'il rend ce quatrième trio-là très bon. Jake Evans, on sait ce qu'on a. Tu comprends? Et il a 28 ans. Ses meilleures années, là, il est dans ses meilleures années. C'est un gars qui sait comment se comporter dans le marché de Montréal. La question qu'on avait envers Jake Evans, c'est sa santé, parce qu'il a eu quelques coups à la tête et on se demandait, bon, mais là, depuis, on voit que ça se passe bien. Moi, je le garde, parce que c'est un gars qui peut t'amener de la profondeur. C'est un gars qui est excellent comme spécialiste en désavantages numériques. On l'a vu encore hier. Moi, je le garde. Maintenant, s'il demande 6-7 ans, peut-être pas, mais si le Canadien est capable de lui dire, écoute, je vais te donner 4.5, pour 4 ans, il va arriver à 32 ans. Moi, je pense que c'est bon. Puis l'autre chose, c'est qu'oublie pas que le Canadien, ses vedettes, à part Laine, sont pas mal sous contrat pour les prochaines années. La masse salariale, le plafond salarial va augmenter. Moi, je pense qu'on peut prendre le risque de lui donner un peu d'argent à Jake Evans, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de ces gars-là. Tu sais, je te donne un exemple. Je ne les compare pas comme joueur de hockey. Yannick Gourde a beaucoup plus de talent offensif, a déjà amassé 64 points avec le Lightning de Tampa Bay. Mais on lui a donné 5 points quelque chose avec le Kraken. Par contre, Yannick Gourde...
Le contexte est assez différent, là. Je veux dire,
oui,
aussi, Yannick Gourde est arrivé, il avait gagné la Coupe avec le Lightning.
Oui.
Il jouait
oui.
tout un rôle avec le Lightning aussi. Il
oui.
s'en venait pour... Ben, en fait, pas pour reconstruire, pour construire la ligne de centre du Kraken de Seattle.
Oui, mais regarde, dans les derniers matchs, le succès du Canadien, Jake Evans contribue à sa façon dans ses derniers matchs. Avec une bonne équipe, moi, je pense que Jake Evans a une utilité. Maintenant, je n'empêcherais pas de dormir si le Canadien décidait de ne pas lui offrir un contrat. C'est pas ce que je te dis. Je te dis pas que l'évolution de l'équipe dépend de Jake Evans. Pas du tout. Je te dis qu'à un moment donné, ça te prend des gars de main dans la Ligue nationale. Tu en as de besoin.
Je suis d'accord avec toi.
Si on ne le signe pas, il va aller ailleurs, puis il va briller ailleurs, puis on va se dire on l'avait, comme les Conan, on l'avait ici, on ne l'a pas apprécié. Fait que, tu sais, maintenant, l'organisation du Canadien a son organigramme. Et je répète, nos vedettes, à part Laine, puis on a encore un an pour décider ce qu'on va faire avec Laine, sont sous contrat. Fait que ça, c'est pas comme si on va se priver de signer Slav ou Caulfield ou Suzuki à long terme, là.
C'est une conversation qui est très intéressante. Et la dernière question que je vais te poser là-dessus,
ouais.
Quel retour te satisferait? Admettons qu'on l'échange là, à date limite, qu'une équipe qui nous offre X pour ça. Qu'est-ce qui te rendrait satisfait de dire, s'il nous rapporte ça, je suis en paix avec le fait qu'on se sépare de Jake Evans?
Mais moi, je pense pas que sa valeur est plus élevée avec le Canadien de Montréal que si on le transige présentement. Moi, je pense que si on obtient... Puis tu sais, tu peux aller voir les stats, là.
On jase, là. C'est une jasette de chum, là. On n'est pas en train d'analyser ou quoi que ce soit.
Choix de première ronde, le pourcentage que tu joues national est quand même pas pire. Deuxième ronde, beaucoup plus bas. Troisième ronde, quatrième ronde, sont minimes les chances que tu joues dans la Ligue nationale une longue carrière. Fait que si tu me dis un choix de troisième ronde, je te dirais, moi, je le garde. Quitte à le perdre, je le garde, un choix de troisième ronde. Puis, tu sais, on va le donner, là, pour rien. Je le garde, puis j'essaye vraiment, jusqu'à la fin de la saison, de voir si on a une possibilité de s'entendre avec lui.
Tu sais, on nous répond sur le YouTube Live, avec un choix de première, moi, je suis en paix, je le laisse partir.
Ben oui, c'est sûr qu'un choix de première, je le laisse partir. Je pense pas humblement qu'on peut avoir un choix de première pour Jake Evans. Mais maintenant... Ça va dépendre de ce qu'est quoi le marché. Ça va dépendre à certains moments. Si une équipe perd son joueur de centre du quatrième trio puis pense qu'on en avoir besoin, mais ça me surprendrait qu'on obtienne un choix de première ronde pour Jake Evans. Si c'était le cas, ben bravo Canadiens de réussir à avoir un choix de première ronde.
Tu vas offrir un choix de 1, là. Imagine un instant. Là. Kent Hughes va offrir un choix de 1, s'en va s'asseoir avec Jake Evans, dit Big, je t'envoie là-bas, je te promets qu'on te fait un offre le 1er juillet.
Ben oui, mais si tu envoies Jake Evans pour un choix de première ronde, tu l'envoies avec une bonne équipe. Jake Evans se dit, moi là, si je fais un grand bout d'insérer avec une bonne équipe, peut-être que j'ai envie de rester encore avec une bonne équipe au lieu de revenir ici. Je sais pas. Je sais pas comment que ça se passerait dans sa tête.
On jase.
Mais tu sais, un choix de première ronde, pour moi, on le transige. Il n'y a pas de problème avec ça.
On jase. Bref, continuons de jaser. D'ailleurs, tu parlais de faire un bon bout en série. Il y a une équipe qui va peut-être faire un bon bout en série. Contrairement à l'an dernier, c'est les Capitals de Washington, mon cher Eric. Ovi est de retour. En a mis un autre dedans. Continue de s'approcher du record de Gretzky. Bien hâte de voir quand est-ce qu'il... Il perd pas de temps, lui-là. Là. OK, c'était un filet désert, mais je veux dire, c'est ça compte pareil. Hein? Et lui, il a une relation très, très unique avec cette organisation-là.
Il y a les chiffres pour Alexandre Ovechkin. OK, les chiffres sont là, sont indéniables. Il va battre. C'est pas... Va-t-il battre un jour? Il va le battre, c'est juste quand? À cause de sa blessure, ce sera peut-être pas de cette saison, probablement l'année prochaine, mais probablement que pendant l'année 2025, il va te battre Wayne Gretzky. Fait que ça, c'est déterminé. Il y a les chiffres. Maintenant, il y a plusieurs perceptions d'Ovechkin. Il y a le côté politique et sa relation avec Poutine. Il y a sa forme physique. Mais il y a une chose dont on parle peu, c'est sa relation vraiment intime avec le propriétaire qui date de la deuxième année où il est arrivé avec les Capitals. La première année, c'est 2004. Il a été repêché premier, mais c'est l'année du lockout. Il n'a pas vraiment rencontré Ted Leonsis. 2005 arrive, la saison va bientôt commencer. Leonsis l'invite chez lui. Sa femme, Lynn, lui fait à manger. Et à sa grande surprise, quand le repas est terminé, Ovechkin, qui a 20 ans à ce moment-là, ramasse la vaisselle et va faire la vaisselle dans la cuisine. Et là, le propriétaire, il dit, wow, un jeune de 20 ans qui prend le temps de ramasser la vaisselle, de débarrasser la table, ça l'a impressionné. Là, après ça, s'en va jouer au basket avec les gars à Leonsis, s'en va nager avec eux autres. Fin de la soirée, s'assoit dans la piscine avec le propriétaire Ovechkin. Et là, ils ont une conversation. Il dit, écoute, il dit, la tendance dans le sport, là, c'est qu'un jeune comme toi va devenir une super vedette dans notre marché, la communauté va s'attacher à lui, puis tu vas t'en aller, puis tu vas briser le cœur de plein de gens. Il dit, moi, j'aimerais ça qu'on renverse la tendance, puis que tu restes avec nous à long terme. Fais-moi confiance, je vais essayer de te faire confiance, puis on va bâtir quelque chose à long terme, mais rappelle-toi que si on t'a choisi premier, c'est parce qu'on n'est vraiment pas bon. Alors, sois patient, éventuellement, puis Ovechkin a dit, sais-tu quoi? Ils se sont donné une poignée de main. D'accord, j'accepte. Et force est d'admettre qu'il est resté fidèle aux Capitals. Et Leonsis est resté fidèle à Ovechkin parce qu'il y a quelques années, en 2021, quand c'était le temps de négocier le contrat, son dernier contrat de 5 ans, Leonsis a dit, c'est pas vrai qu'on va se rappeler de moi comme le propriétaire qui a laissé partir Ovechkin, comme le propriétaire qui a laissé partir Wayne Gretzky. Il dit, on fera pas un documentaire là-dessus, on va lui donner ce qu'il veut du moment que ça soit raisonnable. Puis Ovechkin est encore là, négocie lui-même ses contrats, c'est des poignées de main avec le propriétaire. Fait que ça, c'est assez unique dans le hockey. Et en terminant, Leonsis a fait un parallèle avec, à ce moment-là, parce qu'il est aussi propriétaire des Wizards de Washington, il a dit, moi, là, j'ai deux joueurs avec moi, là. J'ai Ovechkin qui veut rester ici puis qui veut qu'on s'entende. Puis j'ai un autre gars avec mes Wizards qui s'appelle Russell Westbrook, qui est une bonne personne, qui est un joueur extraordinaire, mais il était à OKC, il a voulu une transaction, il est parti à Houston. De Houston, il a voulu une transaction, il est parti, il est venu ici. Et puis maintenant, je suis obligé de l'échanger aux Lakers parce qu'il veut partir. Il dit, voici deux personnalités différentes. Fait que tu sais, Ovechkin, c'est aussi un gars loyal.
Ça, c'est la culture dans la NBA. Donc, oui. Je veux m'en aller là, c'est là que je m'en vais. Non, j'ai décidé que je m'en allais là. T'as pas le choix de faire arriver ça. C'est quand même assez fou. Mais en même temps, Ted Leonsis a été fidèle envers Ovi. Ovi a été fidèle envers les Capitals, mais ça a finalement bien tombé. T'sais, un peu à l'image de Sidney Crosby qui continue de bien aller avec les Penguins de Pittsburgh, mais ça tombe mal dans ce cas-là, puis on se dit que probablement que cette fidélité-là, cette fraternité-là entre l'organisation et le joueur en question sert mal Sidney Crosby à la fin de sa carrière, parce que les Pingouins, là, ça va mieux, là, sont dans une meilleure séquence présentement, s'approchent du tableau des séries éliminatoires, mais on se dit, écoute, tu sais, Ovechkin risque de faire un meilleur bout en séries éliminatoires puis mieux compétitionner que Crosby à la fin de sa carrière.
Rappelle-toi toutes les années avant 2018, là, comment beaucoup d'observateurs disaient Les Capitals ne gagneront jamais avec Ovechkin. Il n'est pas intéressé de jouer en défensive. C'est un joueur unidimensionnel. Et à cette époque-là, Gretzky avait rencontré Leon Sis lors d'un événement, puis il l'avait pris de côté, puis il avait dit « Écoutez, Ted, moi, là, j'ai un conseil à vous donner. Ne vous départissez jamais d'Ovechkin. Vous allez le regretter. » Il dit « Moi, je l'ai vécu, c'est quoi, là? » Puis vous allez le regretter. Puis tu vois, t'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Lui a décidé de le garder, puis avec le temps, il a gagné sa Coupe Stanley en 2018, et quand sa carrière sera terminée, quand, je ne sais pas. Mais l'histoire va nous donner une autre lecture que dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, où on disait « Il est bon, mais on ne peut pas gagner avec lui. » Il a sa Coupe Stanley, puis cette année, il contribue à l'équipe. Là, même s'il a été blessé, les Caps continuent à gagner. Le dernier chapitre dans la carrière d'Ovechkin n'est pas écrit encore.
Et l'affaire avec Ovechkin, c'est que c'est non seulement le visage des Capitals. T'sais, les Capitals, je veux dire, pas beaucoup. C'était rien avant lui. Là. Il avait été en une finale de la Coupe, mais c'était pas une formation avec une histoire très glorieuse. Mais c'est vraiment le plus grand athlète de l'histoire de la ville de Washington. T'sais. Les Nationals, c'est une équipe récente, pas beaucoup d'histoire. Les Wizards, avant ça, les Bullets, une des pires organisations de la NBA depuis toujours. Et les Redskins n'ont jamais vraiment eu un joueur qui a frappé l'imaginaire comme Ovechkin. Donc, c'est vraiment un symbole pour tous les partisans de sport à Washington, Ovechkin. Et le fait qu'il ait pu ramener une Coupe Stanley, c'est une légende vivante, puis c'est le plus grand athlète de l'histoire de cette ville-là.
C'est la meilleure analyse que j'ai entendue par quelqu'un qui a un chandail des Bengals cette semaine.
Ben, ce que tu dis,
c'est très, très vrai.
C'est tellement intéressant parce que l'équipe de Washington, qu'on peut plus appeler les Redskins avec raison, ont eu des vedettes sur du court terme. Joe Theismann, John Riggins, ouais. Tu comprends, c'est du court terme.
Regrettablement, lui, là, Sean Taylor également, ouais, qui a énormément marqué la franchise.
Mais Washington au football ont toujours bien vendu leurs billets.
Ouais.
Leon Sis a expliqué qu'avant qu'Ovechkin est arrivé, ils ont fait une finale de conférence. Il n'était pas capable de vendre de billets de saison. C'était jamais rempli. Ovechkin est arrivé et là, tout a changé avec ce gars-là. C'est toujours à guichet fermé. Fait que l'impact qu'il a eu pour l'organisation et la ville, il est très important dans l'héritage. Puis dans, tu sais, quand on écrira son dernier chapitre, il va falloir inclure ça aussi parce que des athlètes qui font 20 ans avec une organisation, c'est de plus en plus rare.
Le dernier chapitre, il est pas loin. Tu as dit qu'on est pas mal sur l'avant-dernier. Il va battre le record.
Il est surprenant, ce gars-là. Il est surprenant.
Il est surprenamment en forme pour de vrai cette année.
Non.
Avec ce qu'on avait vu, les photos de l'été passé.
Oui, c'est surprenant qu'il compte des buts de même. Les gars, je vous le dis, j'ai un respect immense pour Alex Ovechkin. J'étais allé à Washington. Je l'ai vu aller avec l'équipe. Il est pas plus en forme que cet été, là.
Oui, mais ça a l'air, il a perdu 30 livres, fait que j'ai peur de c'était comment...
Si ce que j'ai vu à Washington, ça c'est Ovechkin moins 30 livres, là. Je voulais pas le voir cet été. Là. C'est sûr que justement Ted Leonsis a utilisé sa relation avec lui, il l'a appelé, il dit « Ovi, 13-2 ans de contrat, là. » Et là, je caricature un peu, je vous le dis, les gars, je manque pas de respect. Il remplit le net actuellement. Ça va bien, là.
On l'a vu dans les séries l'année passée. Il était à bout de souffle. Il en manquait, là. On l'a vu, là. Il y avait de la difficulté à suivre le rythme. Fait que, tu sais, on est au mois de décembre. C'est quand on va arriver en mars et avril et mai que ça va vraiment compter. On va voir à ce moment-là. Mais on le voyait parce que les caméras avaient accès au vestiaire entre les entractes. Ovechkin aime ça rester en pantalon, mais enlever tout le haut. Il y avait du gras de bébé, là, OK, pour être, comme tu dis, respectueux. Là, tu voyais qu'Ovechkin était en surpoids, puis malgré ça, il comptait des buts, mais il était à bout de souffle, là. Fait que c'est sûr que s'il ne se met pas en forme pour les deux prochaines années, ça va être difficile. Mais Ovechkin, il est unique au niveau de son tir, son flair pour le filet,
c'est sa
détermination.
Indéniable.
Alors, indéniable. Fait que c'est à suivre.
Écoute, on n'a pas eu le temps pantoute de parler de tous les autres sujets que tu avais, puis c'est ça, d'avoir des belles discussions productives de sport. On peut se garder ça pour demain matin, mon cher Eric, si tu veux bien.
Ah, écoute, tu sais, t'es encore sur dans le livre Guinness pour le plus long, le plus long stretch d'animation dans l'histoire du sport. Alors, on a encore toute la semaine pour en parler, mon ami. C'est des sujets qui sont encore d'actualité.
6 émissions de suite qu'on fait, Ali et moi. Et sais-tu quoi? ça passe ben trop vite. Je peux pas croire qu'on est déjà au 4e de 6 de cette émission-là. Éric, je sais que demain, tu arrives dans cette émission à 9h demain matin, mais je t'invite à être des nôtres dès 7h45. Manque pas ça. Ouais, malgré que si t'es debout à 7h, tu peux être avec nous dès le début parce que Martin Leclerc va être là. Renaud va être là à 7h30. Mais à 7h45, Bob Hartley sera là et il amène un ami avec lui dans sa chronique.
Est-ce que je le dis? Est-ce qu'on a besoin d'un traducteur?
Possiblement.
Absolument qu'on va avoir besoin d'un traducteur. Je pense que je vais devoir étudier une nouvelle langue ce soir sur Duolingo. Faire du Google et tenter de trouver quelques petits mots dans une langue que je ne connais pas. Je vous fais des clins d'œil. Si vous le devinez sur la messagerie texte ou sur le YouTube Live, on va peut-être dire en ondes qui va s'amener avec Bob dans sa chronique demain. Mais manque pas ça, mon cher Éric, puis on va s'en reparler, nous, demain matin à 9h.
Bonne journée, les gars. Salut à tout le monde. Bon dimanche.
Salut, mon cher ami. À toi aussi. Bye bye.